pour cette année? Bonne question. À nous de le découvrir. Et donc, après ce message, je vais aussi parler d'autres événements qui sont en cours durant l'année, ce qui est un peu mis en place pour grandir dans nos relations mutuelles et en tant qu'Église. En intro, je voulais juste rappeler ce slogan. On a un super slogan à l'Oasis, se ressourcer, grandir, transmettre. Et qui a été une réflexion finalement pour essayer de donner une direction à l'Église. C'est des jolis mots, des grands mots peut-être même, qui ont été médités, réfléchis, recalculés. Mais la question que j'aimerais me poser ce matin avec vous, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça va simplement rester des mots? Vous savez, quand on rentre, on a souvent pour une année plein d'objectifs, plein de défis qu'on se met. Et on a nos critères aussi de sélection pour dire à la fin de l'année, eh bien ça a été une belle année parce que mes critères, tac, 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 1, 2, 3, 6, 12, eh bien sont accomplis. Et moi, j'aimerais quand même nous poser une question ce matin, c'est quels sont les critères de Dieu pour aller vers un objectif que lui nous demanderait d'accomplir? Quelles seraient ses recommandations? Quelles seraient sa façon de voir si nous avons véritablement progressé ensemble, grandi ensemble dans l'année qui va venir? Alors, je vous propose simplement cette question. Qu'allons-nous entreprendre ensemble pour voir cette assemblée grandir? Et je vous invite à mener 4 combats cette année, à nous rappeler 4 combats qui sont importants de réaliser ensemble. La première chose, c'est une unité à préserver ensemble. Le deuxième combat, un lieu à fréquenter ensemble. Et enfin, 2 dernières choses que je verrai courtement avec vous, une ressource à implorer ensemble et une gloire à révéler ensemble. Je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 11. Vous connaissez certainement cette histoire. Est-ce que, sans tomber sur le chapitre, vous savez de quoi il est question au chapitre 11 de Genèse? L'histoire de la tour de Babel. Lisons ensemble. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur la surface de la terre. Ce texte est hyper pertinent lorsqu'on veut entreprendre quelque chose, il me semble. Et je vous propose de regarder un premier combat à mener ensemble cette année, une unité à préserver. En fait, je vais peut-être demander de le faire. Je sais pas si ça ne te dérange pas, François. Ok, super. Une unité à préserver ensemble. Alors, nous savons peut-être tous, en tant que chrétiens, que lorsque nous formons ce corps de Christ, Christ a envie que nous soyons unis. Je ne me trompe pas, il ne me semble pas que Dieu a envie de voir notre corps que nous formons être véritablement unis. Il est intéressant de noter 2 choses avant notre texte. Vous savez ce qui s'est passé avant Genèse 11, il y a 10 chapitres, et Dieu a créé la terre, les cieux et toute la création, et il a aussi créé l'homme et il leur a donné quelque chose de particulier que seul homme a. Vous savez ce que c'est? La parole. la possibilité de parler les uns avec les autres, mais surtout aussi de communiquer avec Dieu. Mais à la suite aussi, Dieu leur avait donné un ordre. Vous savez lequel ? Multipliez-vous et remplissez toute la terre. Donc il reçoit cet ordre. Et au verset 1 de notre passage, nous lisons « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Et nous sommes devant ce peuple qui s'est multiplié depuis la Genèse. Il est bien nombreux. Et nous remarquons aussi que grâce à la communication, à la parole, ils sont unis. Ils ont un même langage. Et on va voir que dans le texte, ils vont même mener un projet ensemble. Mais d'autre part, nous comprenons que malgré qu'ils soient unis par le langage, il y a quand même quelque chose qu'ils ne font pas. Ils ne se dispersent pas, donc ils n'obéissent pas à Dieu. Et ce qui me frappe ici dans cette unité qui est présente dans ce peuple, apportée par la langue, par le langage, eh ben, ceci n'est pas un catalyseur pour eux pour marcher selon la volonté de Dieu ou marcher dans l'obéissance à Dieu, mais plutôt même de s'écarter de la volonté de Dieu. Alors j'ai osé qualifier cette unité comme insuffisante, comme superficielle, comme bas de gamme. Et nous sommes, je crois, interpellés pour rentrer dans cette année à nous rappeler ce que c'est la vraie unité que Dieu, que Christ nous demande d'avoir. Et cette histoire de Babel nous montre qu'il y a un manque de dimension dans l'unité qu'ils vivent. On peut lire le verset suivant, en Jean 17, 20, où finalement Jésus fait cette prière magnifique concernant son désir de nous voir unis, nous, ses enfants, d'être unis véritablement. Et là, il n'est plus question d'être unis par des mots, mais il est question d'être unis de cœur, d'esprit, de pensée, de tout ce que vous voulez. Et même jusqu'à, cette unité va même jusqu'à nous rappeler qu'un jour, nous serons rassemblés avec Christ de corps. Voilà l'unité vers laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je crois que le message de Christ est assez clair ici. La dimension de l'unité vers laquelle Dieu veut nous voir grandir est celle-ci. Et la dimension qu'il n'avait pas, ce peuple à Babel, c'est véritablement la dimension que l'Esprit de Dieu est capable de nous donner à chacun d'entre nous, cet amour indispensable. Philippiens 2:2, on peut l'afficher, Paul dira « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un amour, un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Amen. On est au top. Ça nous emmène où maintenant? Un premier appel que je martèle un petit peu, c'est la préciosité de l'unité vers laquelle Dieu veut que nous allions cette année encore. Et ça nous concerne tous. Ce n'est pas toujours l'autre frère, l'autre sœur qui n'agit pas suffisamment pour l'unité dans l'Église. C'est ma responsabilité aussi. Et ça nous lance un défi permanent. Vous savez lequel ? Un défi de maintenant, d'hier, et aussi pour tous les jours qu'on va vivre cette année. On peut afficher les autres versets. Le premier défi, hyper important, c'est la maîtrise de sa langue. Vous connaissez ? Ça calme un peu, ouais. Je lis quelques versets. Jacques 1, 26. « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion et son valeur. » Ça, c'est pas affiché, mais je l'ai pour moi. Jacques 3. « De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par quoi ? Par l'enfer. Okay ? La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Okay ? Réaction ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Ça calme ? Ça calme. Je veux juste noter aussi une chose par rapport à ces versets. Le langage, vous avez compris qu'en Babel, ils s'unissaient autour de leur capacité de communication, de parler. Mais il faut réaliser une chose, que notre langage peut être trompeur et rusé et nous emmener dans des discussions folles, sans sagesse. Et des fois, on ne se trompe pas parce qu'on dit des mauvaises choses, mais parce qu'on cherche dans la communication avec les autres quelque chose pour moi. Avouons-nous nos faiblesses ce matin au niveau de ce domaine, comme par exemple celle de nous rapprocher de ceux qui parlent le même langage que moi, ou qui me réconfortent dans mes propres idées ou mes propres vérités. Vous savez, en France, il y a à peu près 9% de Français qui disent que peut-être la Terre est plate. 9%, ça fait 6 millions de personnes. Donc même si ces 6 millions de personnes se rassemblaient pour dire et s'encourager dans cette idée, ça ne veut pas dire qu'elles sont au bon endroit ou qu'elles ont raison. Ce que je veux noter avec vous, c'est que le risque de nos discours, de nos associations de discours, dans notre communication les uns ou les autres, est aussi un piège utilisé par Satan. Et le risque est constant. Et nous allons rencontrer ce risque pour les jours à venir, pour cette année 2020 et 2021. Qu'allons-nous faire donc ? Qu'allons-nous donc faire lorsque je vais être avec un certain frère ou sœur de l'assemblée en dehors de l'église ? Quelle sera ma communication avec lui ? Quel sera mon discours avec lui ? Comment se comportera ma langue ? Mon langage sera-t-il spirituel ? Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et à transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Je ne voulais pas vous accabler, et je ne veux pas nous accabler. Mais ça m'amène à une deuxième remarque, c'est qu'on a tous besoin que Dieu impacte nos cœurs. N'est-ce pas ? Et encore cette année. Et comment Dieu va-t-il le faire pour développer en moi de bonnes qualités qui favoriseront l'unité et la croissance de l'oasis ? Vous savez, il y a une chose amusante qu'on dit parfois dans les relations humaines. Il y a comme une règle mathématique. C'est que plus tu t'engages auprès de certaines personnes, ou plus tu te confrontes à des personnes, plus ton niveau de problématique augmente. T'as remarqué ? C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu as beaucoup moins de problèmes. Mais quand tu commences à te confronter à des gens, il t'arrive toujours des problèmes. Vous êtes comme moi. Hein ? Alors deux façons de voir les choses. La première, rester à distance. Fuir les gens. Fuir les rencontres. Mais finalement, en réalité, on fuit quoi ? On fuit notre responsabilité devant l'unité que Dieu nous demande. Et finalement, nous restons pauvres en termes d'unité que Dieu veut nous faire découvrir encore. Et nous restons aussi en réalité pauvres en amour mutuel. Alors, il y a la deuxième façon de voir la situation, c'est que Dieu utilise encore les autres. Et Dieu va encore m'utiliser pour vous, pour votre patience, pour votre grand bien, pour grandir ensemble dans l'unité. Dieu utilise les autres pour m'apprendre ce que c'est véritablement d'être uni de cœur, d'esprit, d'âme, premièrement avec lui, mais aussi entre nous. C'est beau. Alors oui, cette année 2020-2021, il y a un grand défi qui s'annonce pour nous. pas que lié à cause du Covid, mais passer du temps ensemble. Est-ce un grand défi à passer? Et vous savez, ce que je remarque, si quand on va dans ce genre de défi, il y a des choses que l'esprit fait. Il nous pousse au moins à plusieurs choses, à nous dépouiller. En fait, la véritable unité nous pousse par l'esprit à quoi faire, à s'ouvrir davantage, à dire quand on a mal, à dire quand on a des blessures, à dire quand j'ai un fardeau. Finalement, vous avez déjà eu l'image d'un oignon qu'on épluche, plure après plure. Dieu fait ça avec nous hein, et par les autres. Il aimerait qu'on ne reste pas à la surface de l'oignon. Il aimerait que, couche après couche, on arrive à enlever ces couches de notre cœur pour que nos cœurs fassent quoi ? Pleurent devant lui. Se laissent interpeller par lui, véritablement. Il y a un grand bénéfice aussi à nous fréquenter les uns les autres. Vous savez lequel c'est ? Plus les problèmes grandissent, plus les difficultés sont là, bah, si tu as un problème de lecture de la Bible, viens te confronter à nous. Viens. Je t'assure, viens aux prochaines réunions. Venez tous ensemble. On fait des grandes réunions tous ensemble. Tu as un problème de passer du temps avec Dieu dans ta semaine, viens. C'est pourquoi ? Parce que quand il y a des difficultés qui se présentent entre nous, vers où ça nous pousse ? Ben vers lui, vers Dieu, vers sa présence, vers sa parole, parce qu'on a besoin d'avoir des réponses, parce qu'on a besoin d'avoir des directions, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être orienté par lui. Et je voulais mettre une petite astuce en fin de premier point. Astuce pratique pour développer une unité cette année, qui n'est pas simplement le fruit d'une communion verbale hein, ou de façade, mais hein, le fruit d'une communion spirituelle. Méditez, non, j'ai pas mis ça. Tournez 7 fois 1 Corinthiens 13 dans sa bouche avant de parler. Ça, c'est, je sais pas, j'ai une révélation, je sais pas pourquoi. Je me dis, ça peut être vraiment une petite astuce pratique avant de parler. Non, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est, 1 Corinthiens 13. Hein. L'amour, c'est la définition de l'amour fraternel au sein d'une église. L'amour croit tout, pardonne tout, ne cherche pas son propre intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. Ok. Et il y en a encore, je ne les ai pas tous en tête. Puis une deuxième astuce pratique, se rappeler d'une chose, tous les jours, de la grâce qui nous a été faite par Christ. Pourquoi ? Parce que cette grâce, elle nous presse à faire la même chose chez les personnes qui nous entourent. On ne peut pas vivre d'unité sans grâce, ce n'est pas possible. Mais il faut que je comprenne aussi la grâce qui m'a été faite en Jésus-Christ. Et puis, une dernière astuce, transformer notre tendance à critiquer en une habitude de prière. Ça, c'est, je l'ai piqué à ma femme, ça. Ou plus ou moins. Mais attention quand je dis ça, transformer notre tendance à critiquer, donc c'est en rapport avec la langue, en habitude de prière. Et là, la prière, attention, parce que ce n'est pas mon premier réflexe dans ma prière de dire « Seigneur Jésus-Christ, viens changer mon frère. » C'est pas ça. Mais ce que je préconise ici, c'est la prière bénissante. D'accord ? Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir placé ce frère-là avec qui je ne comprends rien, où rien ne se passe comme j'aurais imaginé, mais merci pour lui, parce que tu m'apprends des choses grâce à lui. Amen. Ok, continue. Un encouragement aussi pour cette année 2020-2021 à fréquenter ensemble un même lieu, ou un lieu à fréquenter ensemble. Vous savez ce qui se passe ? Au verset 2 du texte de Babel, donc, il est dit « Après avoir quitté l'Est, donc ce peuple se retrouvèrent dans une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. » Ce texte rappelle aussi que cette foule se sont rassemblées. Et cette foule, elle s'est rassemblée à un même lieu dans la plaine de Shinéar. Après avoir reçu cet ordre d'ailleurs de se répandre sur toute la surface de la terre. Alors, la Bible, dans le Nouveau Testament notamment, rappelle cette importance que nous faisons maintenant de nous rassembler les uns avec les autres dans un même lieu, parce que c'est aidant pour notre foi et pour notre progression. Pourtant, j'aimerais rappeler une chose ici importante, il me semble, que ce n'est pas suffisant que de se rassembler ensemble dans un même lieu. Ce n'est pas suffisant pour dire que je vais agir ou que j'agis ou que nous agissions selon la volonté de Dieu. En fait, le simple fait de se rassembler le dimanche ou dans d'autres occasions ensemble ne signifie pas nécessairement que nous vivons en accord avec Dieu. Je peux venir personnellement ici au milieu des frères et sœurs sans moi-même adhérer à quoi que ce soit. Je peux me retrouver au milieu de chrétiens sans moi-même être un chrétien. Et nous pourrions aller encore plus loin. Le fait que plusieurs croyants se réunissent en un lieu spécifique ne signifie pas systématiquement qu'ils agissent selon la volonté de Dieu. Et malheureusement, je connais des situations de division même d'églises qui ont commencé comme ça. Est-ce que Dieu aurait envie de voir une église se diviser? Je ne pense pas. C'est bien le fruit de la nature humaine qui s'exprime. Alors la Bible, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle que la garantie d'un rassemblement de chrétiens pour qu'ils soient bons, sur le bon chemin, c'est de se réunir autour de Jésus-Christ. En son nom, en son honneur, pour son honneur, se réunir en son nom. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? On le connaît bien. Mais on se réunit au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais plus. J'ai perdu ma note. Si, ça veut dire se soumettre à Christ et à sa parole. La soumission est importante à sa volonté. Alors, ce peuple, finalement, à Babel, il s'est réuni ensemble, mais ils n'ont pas tenu compte de la volonté de Dieu. Alors faisons pas pareil. Quelle est ma responsabilité à moi, à chacun d'entre nous par rapport à cela? Le verset 2 dit encore une chose. On peut l'afficher. Que fait le peuple ici après être arrivé dans cette plaine? Que font-ils? Ils s'y installent. Okay? Ils ont le projet de s'installer, de construire leur habitation. Ils veulent trouver un endroit en fait super confortable pour se poser. Du genre, je me construis un petit endroit, tranquillou, pépère. Et ils mettent beaucoup d'efforts physiques, ils déploient beaucoup d'énergie pour construire cet habitat confortable, parce que c'est pas rien ce qu'ils ont construit. C'est une ville et une tour qui avaient comme but d'atteindre le ciel. Beaucoup d'énergie déployée. Le lieu où nous nous réunissons ensemble lorsque Christ est au milieu de nous n'a pas cette vocation-là. Vous savez quelle est la vocation lorsque nous sommes... Le lieu où nous nous réunissons ensemble lorsque Christ est au milieu de nous, lorsque nous le recherchons, n'a pas comme vocation de faire de nous des pantouflards du dimanche. Quand je me mets dans une attitude de rechercher Dieu, sa présence au milieu de vous ou ensemble, Christ me communique son désir. Et je ne crois pas que son désir pour moi, ce serait de faire de nos rencontres un petit endroit douillet où je peux finalement m'endormir tranquillement. Vous êtes tous éveillés? Vous savez, c'est quoi le désir de Christ pour chacun de nous, indépendamment de notre âge, du nombre d'années d'expérience de ma vie chrétienne? C'est de nous offrir la meilleure paire de baskets qu'il soit. Vous savez pourquoi on en a besoin? Pour marcher dans tous les lieux où il nous guidera afin de porter la bonne nouvelle du salut. Vous vous rappelez, acte 1-8, vous serez mes témoins de Jésus de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il aurait changé le programme? Alors, où est-ce qu'on en est chacun? Sommes-nous en basket ce matin? Je regarde vos chaussures. Qui est venu en pantoufle? Personne. Et cette année, est-ce qu'on va mettre des pantoufles ou des baskets? Alors, je vous donne une astuce encore ce matin. Une astuce, comment quitter ces pantoufles ou garder ses baskets pour l'année 2020-2021. La première astuce, il faut se battre. Vous savez pourquoi il faut se battre ? Parce que ce qui s'est passé à Babel, dans cette histoire, se passe encore aujourd'hui. Et il faut le réaliser. Bye-bye, Tiffany. Il faut se battre. Parce que ce qui s'est passé à Babel se passe encore aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit, nos sociétés veulent nous mettre des pantoufles aux pieds. D'ailleurs, Satan se réjouit beaucoup de toutes nos forces, de toutes les priorités que nous mettons, notre temps, notamment que nous mettons principalement à être accaparés par les soucis de cette vie, par cette énergie que nous déployons pour nous construire quelque chose sur Terre. Il faudrait même l'avouer, même des fois l'énergie qu'on met à servir ici pour, pas pour Dieu, mais pour des projets. Et ça, ça fait bien l'affaire de notre ennemi. Pour lui, il se réjouit de voir que nous croyons, même si nous ne nous rendons pas compte, que ce qui est important, c'est le bien-être sur Terre, une vie confortable, une vie pépère. Satan, finalement, veut nous faire croire quoi ? Que le meilleur des mondes est celui de maintenant et que les vraies richesses sont ici et maintenant. Que le bonheur est ici et maintenant. Je me suis posé une question. Quand j'arriverai là où Christ est, dans son royaume, dans l'autre monde, et que je regarderai en arrière, qu'est-ce que je vais penser de mes pieds là ? Qu'est-ce que je vais penser des pantoufles que j'aurais mis ? Ben, malheureusement, il sera un peu trop tard. Alors je vous rassure, Dieu fait preuve de beaucoup de grâce envers nous, mais quand même, je crois qu'il est important de se battre de cette manière. Et correctement, il faut se battre tous dans ce sens. L'ennemi, ce n'est pas, mon frère, ma sœur, ce qui se passe ici. L'ennemi premier, c'est vraiment ce que l'ennemi essaye de nous faire croire. Deuxième astuce, réalisons aussi que ce que nous devons faire de ces lieux ici, eh ben, ce n'est pas genre, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas ça. C'est nous, premièrement, mais aussi ce lieu n'est pas un lieu sacré. Ce qui est vraiment sacré, c'est lorsque Christ est au milieu de nous et lorsque nous sommes autour de lui, sa présence. Et nous ne sommes pas appelés à nous rassembler ici pour faire de cette salle une sorte de sanctuaire où rien ne peut être touché sans que cela demande une sorte de désinctification au gel hydroalcoolique. Où rien ne peut être touché, bougé, imaginé. Rien hormis le culte. En fait, on peut imaginer ces choses. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faudrait en faire une discothèque, une boîte de nuit, un bar. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce qui est le plus précieux, c'est de nous rassembler autour de Christ lui-même, dans ces lieux. Et que finalement, ces lieux ne se transforment pas non plus en espèce d'habitat hyper confortable, plein de pantoufles ou pantouflards. Mais que nous nous rassemblions autour de Jésus-Christ. Deux versets. C'est Jésus lui-même qui a dit ces paroles. Les renards ont des ternières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Quand Christ est venu, il n'a pas cherché à se construire quelque chose ici. Il nous a donné un exemple. On n'a pas à rechercher à se construire quelque chose ici, mais à rechercher à se construire une demeure dans l'éternité. Matthieu 28, à la fin de sa vie, Jésus a dit ceci à ses disciples: faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je leur ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prions pour que nos rassemblements, cette église, soit un booster dans nos vies pour aller porter l'évangile dans tous les lieux, dans toutes circonstances. Alors, conclusion, Dieu dit: les voici qui forment un seul peuple et ont une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Que Dieu nous fasse la grâce cette année de garder les yeux fixés sur lui, de garder nos yeux fixés sur l'unité que lui veut développer dans notre vie, avec les autres. Et gardons les yeux fixés aussi sur l'importance de nous rassembler ensemble, pas dans ce lieu, mais même si c'est important qu'on se rassemble tous ensemble, mais autour de Christ, de sa parole, pour s'y soumettre, et que Dieu fasse de nous des vrais disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Okay.